When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue sur l'antenne de CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de 90 minutes info, 90 qui est de retour. Ce sera juste après le flash assuré par Isabelle Piboulot aujourd'hui. Bonjour Isabelle.
Le nucléaire ne doit pas être un objet de la guerre, déclaration d'Emmanuel Macron depuis l'Élysée. Le chef de l'État a reçu ce matin le Premier ministre polonais, l'occasion d'évoquer leurs préoccupations communes concernant la centrale nucléaire de Zaporijjia. Le site est la cible de bombardements depuis plusieurs semaines, dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. La haute autorité des Républicains rejette la candidature à la présidence du parti de Virginie Calmels. Le motif, sa carte a été reprise trop tard pour se mettre sur les rangs. Virginie Calmels dénonce des manœuvres visant à éviter sa candidature qui, je cite, « bouscule un scénario bien huilé et cri d'avance ». Un car ferry en feu au large des côtes suédoises, 300 personnes se trouvent à bord. Un incendie désormais sous contrôle serait parti d'un camion frigorifique sur le pont garage. Une vaste opération de sauvetage est en cours. 3 hélicoptères et 7 navires ont été dépêchés sur place. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer.
Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
Eh bien, c'est une étude qui tombe à point nommé le jour des rencontres des entreprises de France, donc ici à Longchamp, près de Paris. Elle concerne les faillites d'entreprises. Et oui, on n'en parlait plus des faillites. Eh bien, ce chiffre qui est communiqué par l'Institut GSC, qui en fait a pour mission d'aider les chefs d'entreprise à retrouver un emploi en cas de difficulté, eh bien, elle révèle qu'il y a déjà eu 18 500 entreprises qui ont fermé depuis le 1er janvier, à comparer, bien sûr, par rapport à 2021, la même période. Ça fait une progression de 30%. Alors les plus exposés, ce sont les TPE, c'est-à-dire les entreprises de moins de 3 salariés. 3/4 des faillites concernent ces toutes petites entreprises. Ce sont parfois des artisans, des commerçants. C'est l'hébergement, c'est la restauration, ce sont les débits de boissons. Et alors ce qu'on apprend dans cette étude, eh bien, c'est que vous avez eu des fermetures de coiffure, de garage, d'auto-école. Pourquoi ? Eh bien, lors de la crise Covid, ces entreprises étaient aidées. Lorsque les aides ont été arrêtées, les entreprises les plus fragiles ont été donc tout simplement en très grande difficulté. Ce qui veut dire que les plus faibles sont fragilisés. Que retenir de tout cela ? Eh bien, que cette situation est actuellement très complexe. Les liquidations judiciaires ont plutôt tendance à augmenter, dit-on ici, à Longchamp. Et donc, le risque de faillite en cascade n'est pas exclu pour la fin de l'année.
C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
Voilà, on va commencer notre débat. Pour m'accompagner aujourd'hui autour de cette table, j'accueille Jonathan Sixou. Bonjour.
Bonjour Nelly.
Je rappelle que vous êtes journaliste chez Causeur. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce lundi de rentrée CNews. William Tay est là également.
Bonjour.
Bonjour cher William. Je rappelle que vous êtes président du cercle de réflexion Le Millénaire. Jean-Claude Dacier est resté en notre compagnie. Merci Jean-Claude d'être resté pour commenter l'actualité. On attend aussi Jean Garrigue qui devrait nous rejoindre d'ici un tout petit moment. Je rappelle qu'il est président du comité d'histoire parlementaire. Et puis, via Skype, dans un instant, nous serons avec Jean-Christophe Couvy qui est secrétaire national du syndicat policier Unité SGP. Pourquoi ? Parce qu'on va vous parler à nouveau. Hélas, on aurait aimé vous annoncer de belles nouvelles en cette fin de saison estivale. Mais on va vous parler de chronique de la violence ordinaire à nouveau. À commencer par cette antenne de SOS Médecins à Mulhouse qui a interrompu toutes ses visites à domicile dans le courant du week-end à l'issue de l'agression de l'un de ses praticiens par le conjoint d'une patiente à laquelle il rendait visite. Et oui, ça s'est passé samedi. Une agression, une de plus, qui reflète un problème réel, avéré maintenant sur le terrain. Les explications de Michael Martin-Haïm.
Le 18 avril à Tours, le 27 mai à Pau, le 8 juillet à Saint-Étienne et donc le 27 août à Mulhouse. Ces quatre dates ont pour point commun des actes d'agression commis ces derniers mois à l'encontre de praticiens de SOS Médecins. Dans toutes ces villes, le ras-le-bol est général et a poussé les antennes à suspendre les visites, parfois plusieurs jours. Des attaques lors des consultations à domicile qui ont augmenté ces dernières années.
Augmentation de la violence qui devient complètement gratuite. Au départ, on pensait que ces violences-là pouvaient se concentrer dans des endroits particuliers dits difficiles. Et là, on voit que c'est plus vraiment le cas.
Face à cette recrudescence d'agression, plusieurs solutions sont envisagées par SOS Médecins.
Évidemment que c'est en rapport avec des caméras de surveillance, c'est en rapport avec... Des patrouilles de police quand parfois, mais c'est pas toujours prévisible évidemment, on pressent qu'une visite peut mal se passer.
Une rencontre avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est également envisagée. Objectif, rassurer une profession de plus en plus inquiète pour l'avenir.
Alors, la suite de cette histoire, le jeune professionnel a déposé plainte, il réclamera 1 euro symbolique. Sympa, hein, compte tenu de ce qu'il a enduré. Et puis, précision, il est déjà connu de la justice, l'agresseur, et il a été placé en garde à vue, n'a pas contesté d'ailleurs les faits. Alors, William T, je me tourne vers vous peut-être pour commencer. On a coutume de dire qu'on est dans une société désormais ultra-violente, mais là, on voit qu'elle est malade, malade au point de s'en prendre même à ceux qui viennent vous sauver. On a déjà évoqué maintes fois le cas des pompiers. Chez les médecins, c'est un peu plus inédit, mais c'est quand même le reflet de cette mutation, de la violence qui imprègne maintenant tous les échelons en fait, des services qu'on rend aux personnes.
La société occidentale devient de plus en plus radicale et devient de plus en plus polarisée. C'est-à-dire qu'au lieu de régler des différends à l'amiable, maintenant on se polarise davantage et on écarte nos opinions. Et la société devient plus radicale dans la mesure où avant on pouvait avoir des joutes verbales, maintenant ça devient des joutes directement au poing, voire à l'arme blanche, voire directement, bon là, heureusement que c'était à billes, mais c'était par fusil. Je pense que ça se joue sur plusieurs éléments pour rester sur le cas... Sur le cas français. En fait, en France, globalement, on a assisté à ce que Marcel Gauchet appelle le désenchantement du monde avec la perte du sacré, la perte de la figure d'autorité qu'incarnait le général de Gaulle en mai 68. Et petit à petit, en fait, on est arrivé vers un délabrement de la société. Et le point qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que notre état de droit et nos règles sécuritaires et judiciaires sont en rapport avec l'évolution de la société? Moi, je pense que l'état de droit sur lequel on a construit à l'après-45 et après la Seconde Guerre mondiale n'est plus adapté à l'état de société actuel. Face à cet ensauvagement de la société, il faut que l'état de droit soit plus sévère, il faut que les règles soient plus adaptées à l'état de la société actuelle qui devient de plus en plus violente. Et tant qu'on n'arrivera pas à arriver à un rapport de coût-bénéfice, ça veut dire que la personne se permet ce type d'agression parce qu'elle sait qu'elle aura quasiment rien et que les suites judiciaires seront très faibles. Et ben, il faut que les personnes risquent plus que ce que ça pourrait rapporter comme agression.
Oui. Je vous le dis, Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national d'Unité SGP Police. J'imagine que vous allez aller complètement dans le sens de ce que vient de dire William T. Il y a une forme de désenchantement de la part des policiers, même lorsqu'ils sont en intervention, pour régler ce genre d'incident, de se dire, au fond, il n'y aura pas de réponse adéquate derrière. Mais ça n'entrave pas, et j'imagine, votre mission. Alors peut-être un premier commentaire sur ce fameux état de droit. Et puis ensuite, la question, comment, malgré tout, on les protège? Parce que avant même d'en venir à la sanction pénale derrière, il faudrait déjà envisager un scénario où ça n'arrive pas.
Bonjour. Oui, effectivement. Alors, on se rend compte que maintenant, la violence, elle touche tous les pans de la société, j'allais dire tous les métiers. On voit très bien que si on peut comprendre, pas accepter, mais comprendre, par exemple, qu'on s'en attaque à des policiers qui représentent vraiment l'autorité, qu'on est là pour entraver certaines libertés de certaines personnes, justement, qui ne respectent pas la loi. Ça, on pourrait l'imaginer et le comprendre. Maintenant, effectivement, qu'on attaque des pompiers, qu'on attaque des médecins, bientôt, on va attaquer des assistantes maternelles, on attaque déjà des professeurs. Enfin, voilà. À chaque fois, on repousse un peu les limites. Alors, vous voyez, ce week-end, c'est marrant, j'ai lu la bio de Freud. Alors, vous allez me dire, mais c'est très intéressant parce qu'il parle de pulsions. Et justement, en fait, on se rend compte que l'être humain a des pulsions et doit les réfréner. Ça s'appelle la civilisation. C'est-à-dire qu'on met des lois, on crée, j'allais dire, des règles. Et justement, pour ne pas obéir à toutes ces pulsions qui sont normalement l'agressivité. Et l'agressivité sexuelle aussi, ouais, c'est les deux pulsions. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des gens qui vivent complètement en marge de la société, qui sont complètement désinhibés de ces pulsions. Ils ont une pulsion, ils le font. Ils ont une pulsion violente, ils vont dire, bah, après tout, je suis dans mon droit, je vais prendre un fusil et je vais tirer sur quelqu'un, j'agresse quelqu'un, je peux lui mettre un coup de couteau, de toute façon, je suis désinhibé, je n'ai plus d'empathie. Donc en fait, on a une espèce de société qui s'est créée, une société parallèle, où on se rend compte que les gens ne font plus partie de cette société. Et quelque part, on se dit, mais alors nous, on respecte les règles. Quelque part, on est presque un peu comme des petits moutons, en fait. On est gentil, bien élevé, on a compris qu'il y avait une règle. Et de l'autre côté, on a des fauves qui sont là, en marge de la société, qui ne se rendent pas compte que justement sur un mauvais coup, ou deux fois ils s'en rendent compte très bien aussi, ils peuvent tuer quelqu'un, mais ça, je veux dire, ça ne les touche pas. Il n'y a pas cette empathie. Et quand on n'a pas l'empathie et la bienveillance dans l'être humain, il ne peut pas y avoir de société.
Jean-Christophe Couvi, pour qu'on comprenne, parce que là, on a l'air de le traiter comme un fait divers, mais vous, qui êtes amené à répertorier ce qu'on appelait jusqu'ici des incivilités, mais là, ça va beaucoup plus loin, on l'a bien compris, est-ce que c'est symptomatique de ce qui se passe réellement sur le terrain ? C'est-à-dire que ce genre d'agression se renouvelle à l'encontre des médecins, ou c'est un fait plutôt nouveau ?
Non, on voit que c'est un fait nouveau qui s'inscrit depuis quelques années déjà. On sent que c'est crescendo, mais maintenant ça s'installe. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est devenu d'un fait divers. En fait, on a bien peur que ça devienne un fait de société. Et effectivement, il n'y a pas de petite intervention maintenant quand on va chez les gens. On ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière la porte. Les policiers, nous on était un peu habitués. On s'est toujours dit, voilà, quand il y a une intervention chez les gens, attention, on ne sait pas ce qu'on trouve. La semaine dernière, il y a des collègues qui sont intervenus à Saint-Brieuc pour évacuer un conjoint violent. Ben, en fait, il y a 5 collègues au tapis parce que le conjoint violent a été pris d'un accès de démence, a mordu au sang les policiers. Il a mordu deux policiers quand même et cassé le bras d'un troisième. Enfin voilà, on sent que maintenant cette violence-là, elle est désinhibée complètement. Et nous, on se rend compte que quand on intervient, en revanche, on a toujours notre épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'il faut toujours qu'on reste professionnel, entre guillemets. Mais bon, il y a des fois, je peux vous dire, nous aussi, on prend sur nous parce qu'on ne supporte plus l'insupportable.
Ouais.
Donc, c'est très compliqué d'intervenir. On voit bien que même les médecins, maintenant, vont devoir prendre toutes les précautions.
On verra tout à l'heure si on peut parler des moyens de les protéger, parce que ça a été soulevé peut-être dans le reportage qui précédait, vous l'avez entendu, ce médecin qui suggérait de placer des caméras de surveillance. On imagine mal, lorsqu'il y a des interventions ponctuelles comme ça dans le domicile des gens, comment on peut mettre en place ce genre de mesures. Mais on va continuer un tour de table. Vous restez bien évidemment avec nous, on va vous solliciter sur bien d'autres questions. Jonathan Sixou, il y a ce mot qu'on retiendra quand même, c'est ce terme de désinhibition, c'est-à-dire que maintenant, mais en même temps, j'aime pas trop ce terme parce qu'on a l'air de dire que bon, la désinhibition, on minimise un petit peu la portée de l'acte. C'est comme si tout ce qui, énervait les gens pouvait être d'une certaine manière justifié. L'attente longue aux urgences, le SAMU qui n'arrive pas, le médecin qui tarde à arriver parce que lui aussi est très sollicité, ça n'est pas une raison, on le rappelle.
Ça n'est pas une raison, vous avez entièrement raison de le rappeler, Nelly. Mais on assiste à ça depuis bien trop longtemps. Et de toute façon, de minimiser les délits en tout genre, ça, c'est pas une nouveauté non plus. Dans le discours public, d'entendre des mots bien plus atténués qu'il le faudrait pour dénoncer un délit,
comme
dénoncer
incivilité.
Un crime. Comme incivilité, qui pouvait avoir un sens il y a un certain temps et qui n'a plus du tout le même aujourd'hui. Je rebondis également sur ce qui a été dit. Effectivement, des faits divers qui se multiplient, ce ne sont plus des faits divers, ce sont des faits de société. Et aujourd'hui, un médecin d'SOS Médecins qui est agressé, c'est un fait de société, c'est devenu un fait de société. Et ça, c'est terrible. Mmh. Et ça, c'est terrible parce que s'il y a des délits répréhensibles, condamnables par la loi, il y a une nouveauté qui est dans les esprits. Et ça montre à quel point il y a des esprits qui sont malades, si je puis dire, qui ne connaissent pas, qui ne respectent pas les règles. Et c'est ça, je ne sais pas qui peut prendre en charge cela. Vous voyez, il y a des lois qui ne sont peut-être pas au niveau, qu'il faut réactualiser. Ça, on a des législateurs pour le faire. On a des délits à caractériser, des nouveaux délits à caractériser. Ça peut être fait. Mais là, quand vous vous en prenez à des médecins qui viennent chez vous, quand vous vous en prenez à des postiers, quand vous en prenez à des pompiers, qui va pouvoir, je ne sais pas comment employer le bon terme employé, mais qui va pouvoir remettre dans le droit chemin des personnes qui se livrent à de telles actions? C'est pour moi, pour l'instant, insurmontable.
Il y a la
avec les moyens que nous avons.
Et il y a l'éducation et le savoir-vivre. Et le savoir-vivre ensemble, surtout.
C'est quelque chose qui ne veut plus rien dire du tout dans la langue française aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Jean-Claude Dacier, et dire que, on le rappelle, ces médecins, hein, qui travaillent pour SOS Médecins, les agents du SAMU, ce numéro qu'on doit composer parce qu'on nous a maintenant enjoint à ne pas engorger les urgences qui sont surchargées, ils sont là en fait pour pallier le manque de médecins, pour se substituer à toutes ces visites dites intempestives dans les services d'urgence. Imaginez le malaise qui va régner après ça. C'est-à-dire que si on a la trouille au ventre avant d'aller en intervention médicale, ça va être contre-productif pour tout le monde.
Quand il y a risque d'épidémie, il y a déjà 4 cas, il y en a eu sans doute avant que nous n'avons pas appris, qui ne nous ont pas été signalés, c'est quoi ? un degré ou une preuve supplémentaire d'une certaine ensauvagement de la société française. C'est pas moi qui ai utilisé ce terme. Mais c'est vrai qu'on avait déjà du mal en France à mettre la main sur un médecin quand il y avait un problème assez urgent à régler. Disparition des gardes, visite à domicile extrêmement rare et qui subsistait ici ou là. Tout le monde se précipitait aux urgences, on va essayer de régler le problème. Il ne faudrait pas que ce type d'événement... J'espère que c'est dû à un degré marqué d'alcoolémie, parce que quand même, s'en prendre à un médecin parce qu'il a pris un peu de temps pour venir, il avait sans doute d'autres choses à faire, et attaquer avec un fusil, heureusement pas chargé, enfin bref. J'espère que c'est un phénomène qui est essentiellement dû à l'alcoolisme. Mais néanmoins, mon voisin et mon ami a raison. On a tous les services à la personne. Aujourd'hui, plus personne ne respecte quoi que ce soit. Enfin, pas plus personne. Certains ne respectent plus des services aussi essentiels à la personne que les pompiers, que les médecins, j'en passe, et les professeurs, évidemment. Ouais. Mais tant qu'on ne se décidera pas, et on est confronté, qu'on le veuille ou non, mis à part peut-être M. Darmanin, c'est normal, c'est son job de ministre de l'Intérieur. Un certain aveuglement, eu égard à l'état de violence qui est en train de se répandre en France, qu'on le veuille ou non, et qu'on ne met pas en face des sanctions qui soient de véritables sanctions, parce que les condamnations à moins d'un an, il y en a eu, je crois, 2000 cette année, mais aucune n'est faite. Tant qu'on ne se décidera pas, et là, c'est de la... Je ne dirais pas que c'est de la faute.
Mais ça, ce n'est pas le fait de Gérald Darmanin.
Monsieur le garde des Sceaux. Voilà, mais néanmoins, je pense qu'il y a un certain aveuglement, mis à part Monsieur Darmanin, un silence relatif du président de la République, et surtout un garde des Sceaux qui considère que ce dont nous disons là, ce que nous évoquons souvent, n'est qu'un... sentiment
d'insécurité. Oui, ce que vous dites,
c'est un peu ennuyeux.
Une chose, c'est que les courtes peines, c'est la directive Belloubet qui engage les juges à ne pas demander une incarcération.
Oui, Jean-Christophe Couvi, une petite réaction sur ce terme d'aveuglement. Vous trouvez aussi, comme Jean-Claude Dacier, qu'il y a de l'aveuglement au plus haut de l'État, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure de ce que vous, mais d'autres aussi, d'autres agents du service public, vivent sur le terrain, où on devrait aller encore plus loin, au-delà même de la réponse pénale, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont.
Bah écoutez, ça fait des années quand même qu'on tire le signal d'alarme, hein, tous les corps intermédiaires. Hein. Alors effectivement, ça n'a pas dû passionner tant nos édiles que ça, parce que regardez ce qui les intéressait. Encore une fois, c'était l'image politique qu'ils pouvaient renvoyer. Et quelque part, bon, on mettait un peu la poussière sous le tapis, on dira, on verra ça pour plus tard. Sauf que là, aujourd'hui, bah oui, on arrive à un carrefour et nous, on paye la note. Voilà, on nous tend la note et on nous dit, maintenant, c'est à vous de payer et on doit faire avec. Et je pense qu'effectivement, dans cette société, on a un souci, c'est par rapport à la frustration. C'est-à-dire que les gens étaient tellement habitués à avoir du service public qui était toujours présent, qui était toujours là. Quelque part, on les a assistés, les Français, depuis des années, on les avait assistés. Et d'un seul coup, il y a une rupture, j'allais dire, des services publics, parce qu'il a fallu, entre guillemets, dégraisser le mammouth. C'est ce qu'on nous répétait à chaque fois. Donc, quelque part, l'État régalien s'est désengagé. On a laissé ça peut-être un peu le champ à des associations, c'est des soins palliatifs quelque part, hein, des associations ou même des associations locales. Et quelque part, l'État s'est désengagé. Et les gens n'ont toujours pas compris aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut plus répondre comme avant aussi vite. Donc cette frustration-là, il va falloir qu'ils apprennent à la gérer. En même temps, on est quand même un pays où on a une base sociale qui est quand même très, très prégnante. Regardez, et d'ailleurs, c'est peut-être longtemps justement qu'on ne se compare pas assez aux voisins. Quand on voit en ce moment en Ukraine qu'il y a une guerre, et comment, je veux dire, les gens sont dans un état de résilience et résistent. Et je me dis qu'en France, on se plaint tous les jours de petits tracas qui ne vont jamais. Et cette frustration-là n'arrive pas à l'avaler. Bon, ça, c'était le bilan social que nos collègues font sur le terrain, avec les enfants rois, les éducations, effectivement, on n'apprend jamais à punir. Et on voit bien que dès qu'on est petit, de toute façon, la punition ne tombe jamais. Les enfants ne sont jamais punis. Par rapport à la loi, oui, alors il y a deux écoles aussi. Hein. Il y a l'école, effectivement, anglo-saxonne, américaine, c'est tout répressif. Où effectivement on met les gens en prison et d'ailleurs ça ne marche pas forcément non plus. Et de l'autre côté, il y a l'école un peu scandinave où on essaie de travailler plus sur la réinsertion. Et nous, on se retrouve un petit peu entre les deux. Sauf qu'on ne donne pas les moyens à notre justice qui a été laissée en déshérence pendant des années. Et là, aujourd'hui, elle n'a pas les moyens, j'allais dire, de ses ambitions. Donc donnons ces moyens à la justice, justement, de travailler un peu l'humain. On voit bien que enfermer quelqu'un, c'est bien pour la société parce que ça protège la société. Sauf que cette personne-là, un jour ou l'autre, elle va sortir. Donc, il faut qu'on travaille sur sa réinsertion. On a vu récemment avec l'histoire des kartings et tout. Voilà, il faut travailler de façon intelligente, mais sur la réinsertion. On ne peut pas passer 22 heures sur 24 à faire de la muscu et à dormir et à se plaindre. Il faut aussi faire des études, travailler, apprendre un métier et réfléchir de pourquoi on est arrivé là et essayer de se réinsérer dans cette société. Alors c'est peut-être utopique, mais il faut donner ses moyens à cette justice qui, pour l'instant, ne peut rien faire.
C'est intéressant ce qu'il nous dit Jean Garrigue, qui nous a rejoint entre-temps, Jean-Christophe Couvi. Il nous parle à la fois d'une société qui serait trop gâtée, hein, qui a été habituée à ne pas subir de frustration et qui maintenant a du mal à s'accommoder des blocages et du manque de vocation. Et cet événement, il n'est sans doute pas de nature à susciter de nouvelles vocations chez les médecins, alors qu'on parle déjà depuis de nombreuses années de déserts médicaux et de manque d'envie de se lancer dans cette profession. Et puis il nous dit quelque chose d'intéressant, le tout répressif, ça n'est pas forcément... la panacée, c'est-à-dire que c'est bien sûr qu'il faut en passer par là, parce que toute société, pour fonctionner, se doit de condamner ceux qui ne respectent pas les règles. Mais il y a un autre aspect qu'il faut travailler, et il appelle ça l'humain, lui, c'est intéressant de la part d'un policier.
Oui, bien évidemment, mais je crois que les policiers sont tout aussi humains que n'importe quel autre citoyen. Non, moi, je souscris totalement à ce qui a été dit à propos de l'ensauvagement par Jean-Claude Dacier. Je souscris à ce qui est dit sur la question de la frustration, puisque... Ce fait divers là, qui est c'est toujours difficile de commenter les faits divers, sauf qu'il révèle presque à chaque fois, il révèle des choses très profondes de notre société. Et moi, je crois qu'on est effectivement d'une société qui ne supporte pas la frustration. C'est une société d'hyper-individualisme. On pourrait en rechercher les causes, notamment dans ce qui s'est passé au moment des années 60, pour des tas de raisons. Et finalement, rétrospectivement, ce que disait Nicolas Sarkozy sur les post-68ards, qui, même pour des gens comme moi, apparaissait comme un peu ridicule à l'époque, en réfléchissant un peu plus à ce qu'est devenue notre société, d'hyper-individualisme, d'hyper-libertarisme, je pense qu'il y avait des choses à apprendre dans cette idée-là. Et quand vous êtes enseignant comme moi, ou vivez dans le monde enseignant, vous mesurez à quel point les enfants d'aujourd'hui ne peuvent plus tolérer la moindre frustration parce qu'ils sont mis sur un piédestal. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Et la génération d'adultes d'aujourd'hui, qui sont les fils des boomers, ils ont été élevés là-dedans, dans cette espèce d'hyper-individualisme qui ne supporte aucune frustration, qui ne supporte aucune autorité, qui ne supporte aucun respect de l'autre et qui est dans l'individualisme total. Mmh. Moi, je pense que c'est une cause majeure de ce qui nous arrive. Alors, là-dessus se greffe une crise de civilisation. Je pense qu'on est à cette charnière-là des années 2010-2020 où il y a vraiment un basculement civilisationnel pour des tas de raisons. Là, je ne vais pas entrer dans un long développement là-dessus. Mais si vous mettez d'un côté cette angoisse due à ce changement civilisationnel et de l'autre côté cette incapacité à supporter la moindre frustration et être à ne pas tolérer ce qui relève du solidaire et du collectif, ce qui est du commun, tout simplement du commun, ben vous avez une société comme ça qui se déchire, qui est un peu une société qui évoque les temps les plus noirs des époques médiévales, où vous aviez les cadets de noblesse qui étaient en déshérence et qui se faisaient la guerre. Les tournois, ça a commencé comme ça, les tournois, c'était des choses où on se battait comme ça, un peu des grandes mêlées, où chacun, finalement, essayait de jouer sa partition. Oui. Et cette idée de faire commun, d'avoir un sens collectif, on l'a perdu pour des tas de raisons, mais fondamentalement, à mon sens, parce qu'on est dans quelque chose où c'est l'hyper-individualisme qui domine.
William Tech, quand même, si on prend le propos de Jean Garrigue et qu'on le met à l'échelle
très noir, très noir.
Non, mais oui, c'est un propos très noir, mais moi, ce qui m'intrigue toujours, et j'imagine que les téléspectateurs se posent cette question aussi, on ne regarde pas H24 ce qui se passe dans les autres pays, mais néanmoins, quand on voit... tous ces faits divers, faits de société tels qu'ils interviennent en France, on se dit que c'est un peu propre à la France quand même, cette ultra-violence. Quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, on n'a pas l'impression que les agressions du quotidien soient aussi violentes, répétées, presque, pardonnez-moi ce terme, mais systématiques dans certains cas.
Faut être précis, la société occidentale est marquée par la polarisation et la radicalité, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Mais l'Europe spécifiquement est décrite par les autres pays. Quand vous lisez la littérature, ou par exemple, quand on travaille sur le conflit entre la Chine et les États-Unis, on lit tous les discours de Xi Jinping. Ce que dit Xi Jinping, c'est que l'Europe est le ventre mou du monde et que c'est là où il y a le plus de violence. Et même la Russie, le Vladimir Poutine et les autres pays considèrent la même chose. Spécifiquement en France, pourquoi est-ce que vous avez un point spécifique sur la violence par rapport aux autres pays européens, donc encore plus grave que l'Europe? c'est qu'en fait, en Europe, on a eu plusieurs sujets. Je pense qu'il y a eu un sujet qui était lié à l'immigration de masse, notamment de l'immigration sous-qualifiée, qui n'avait pas de brevet. C'est notamment le CE2 qui le pointe, c'est-à-dire que l'immigration française qui vient en France est moins qualifiée que celle qui arrive au Royaume-Uni, qui arrive aux États-Unis, qui arrive au Canada. C'est-à-dire qu'on a mal choisi l'immigration et qu'une immigration qui pouvait pas arriver en France. Il y a un deuxième point, c'est ce qui s'est passé dans les années 60, c'est le choc culturel que nous avons pris avec mai 68, notamment avec la perte de la figure d'autorité du général de Gaulle. Le message adressé en 68, c'était la figure d'autorité est morte, on abat la figure symbolique du général de Gaulle, et donc du coup, on interdit d'interdire. Et quand vous interdisez d'interdire, est-ce que les règles et les règles de droit sont encore applicables auprès d'une partie des individus qui se disent on peut s'affranchir des règles et on vit dans une société de plus en plus anarchique? Et puis, il faut être précis. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde sur un effectif de 100 personnes, donc la population française, ça ne veut pas dire que les 100 personnes deviennent de plus en plus radicales. C'est-à-dire qu'il y en a toujours 5 à 10% qui deviennent très très radicales, et ceux-là deviennent de plus en plus radicaux. Moi, c'est pour ça, pour répondre aux policiers, que je pense qu'il faut les enfermer, dans la mesure où quand vous avez des personnes qui sont nuisibles, il faut les sortir de la société, et c'est le but de la prison. Et il faut protéger les 90-95% restants.
Jonathan Sixou, quand il parle, Jean Garrigue, je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure, de crise civilisationnelle. Est-ce qu'il dit pudiquement, est-ce qu'il utilise un terme un peu pudique, ou est-ce que vous, vous faites, pour reprendre là le propos, j'essaie de faire la synthèse de William T, qu'il y a une crise ou une délinquance qui est aussi, dont on peut faire le lien avec l'immigration. Et en cela, il y aurait quelque chose de l'ordre du civilisationnel.
On a parfaitement le tableau que nous vivons aujourd'hui, qui nous est décrit de cette brillamment par nos deux amis de cette façon-là, parce que l'un et l'autre sont actuellement strictement contemporains. Il y a une crise civilisationnelle. C'est évident, ça ne concerne pas la France spécifiquement, c'est une crise occidentale, et la France développe à sa façon une crise qui existe dans d'autres pays d'Europe ou d'Occident au sens large. En France, il y a également ce que tu décris très bien, qui est cette conséquence logique naturelle, dirais-je, d'un courant 68-art qui ensuite, génération après génération, s'est développé, s'est alimenté et s'est adapté, et on en a aujourd'hui les derniers fruits. Et enfin, cette immigration de masse incontrôlée, non choisie, qui a des répercussions directes. On voit que la plupart des étrangers qui commettent des actes délictueux, des agressions de policiers, ne se permettraient jamais de faire ça dans leur pays.
Allez, on va s'interrompre quelques secondes. Jean-Christophe Couvi, qui est resté en notre compagnie, va rester aussi après la pause, après la page de pub, parce qu'on parlera des rodéos urbains qui, eux aussi, hélas, se multiplient et qui prennent parfois des tournures des plus inédites. On en parle d'ici quelques minutes. À tout à l'heure. Ouais, 90 minutes info, la suite, et on va commencer avec un journal. Et cette intervention de la Première ministre face au MEDEF, Elisabeth Borne, qui invite chaque entreprise à établir dès le mois de septembre des plans de sobriété énergétique. On commence à s'habituer à ce terme. C'était à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. Vous le voyez ici arrivant à l'hippodrome de Longchamp. Sur place, il y a également Éric de Rinmatel. Bonjour, rebonjour cher Éric. Que peut-on retenir du discours, de l'allocution de la Première ministre? Je crois qu'il n'a pas été seulement question d'ailleurs d'énergie cet après-midi.
Non, c'est certain, elle a parlé de beaucoup de choses. Hein. Bon, mais je pense quand même que les patrons l'attendaient surtout sur la question d'énergie, sur la question de la sobriété. Voilà, c'est un mot qui va devenir un mot clé hein, pour les patrons. Elle a annoncé qu'il y aurait à faire un plan de sobriété. Chaque patron devra produire son propre plan de sobriété dès début septembre, avec ensuite une réunion en octobre pour voir ce qui a été mis en place. Et elle a reconnu hein, que les entreprises seraient les premières touchées. En gros, si vous voulez, elle dit il faut un effort collectif des patrons. S'il n'est pas là, eh bien on sera obligé d'agir de manière un peu catégorique, avec donc des délestages ou des coupures. Donc en fait, ce sera imposé. Hein. C'est ça quand même qu'il faut voir dans le discours d'Elisabeth Borne. Elle a quand même dit que l'heure était grave. Elle reconnaît, hein, les mots sont quand même pesés, l'heure est grave. Si on coupe la totalité des approvisionnements russes, là, ça va devenir vraiment extrêmement compliqué, notamment avec le gaz. Donc chacun doit agir. Alors elle a aussi annoncé qu'il y allait peut-être y avoir un marché d'échange. Change de l'électricité, c'est-à-dire ceux qui consomment moins pourraient vendre leur droit à l'électricité, un peu comme pour le carbone, et donc ça pourrait être un marché européen d'échange de droits à consommer. Il y a aussi des aides spécifiques pour les entreprises qui sont à l'étude. Maintenant, vous allez sûrement me demander ce qu'en pensent les patrons. Alors, les patrons, ils ont été finalement assez contents d'écouter ce discours de Mme Borne. Ils ont dit, vous savez, la sobriété, on le fait depuis longtemps, on n'a pas attendu les demandes du gouvernement. les patrons sont des grands garçons, si je puis me permettre l'expression. Donc la climatisation cet été a été réduite. Ils vont faire leur plan. Ils sont prêts aussi à s'engager. Le tournant, c'est qu'ils sont prêts à s'engager aujourd'hui sur un plan de France décarboné. Ça, c'est vraiment nouveau. Il n'y a plus de sceptiques sur ce plan. Et il y aura donc une France, je termine par ce point, liberté, égalité, prospérité. Voilà ce qu'a dit Geoffroy Roux de Bézieux tout à l'heure, ici, donc, aux rencontres des entreprises de France.
Merci beaucoup, cher Éric de Ridmatel. Les agriculteurs sont inquiets après les dégâts occasionnés par un été particulièrement sec. Ils sont nombreux d'ailleurs à être confrontés au triste bilan de la production qui est moindre et malgré les aides proposées par le gouvernement. Regardez ce reportage de Quentin Gribel et Corentin Brio.
Dans cette ferme à Richebourg, dans le Pas-de-Calais, on distribue du foin pour nourrir les bêtes. Habituellement, à cette période de l'année, ce sont l'herbe et les rendements de maïs qui sont la base de l'alimentation des ruminants. Mais la sécheresse estivale a obligé l'agriculteur à entamer son foin, pourtant prévu pour cet hiver, et à prendre une décision radicale.
C'est par principe des vaches qui vont être vendues, parce qu'elles ne pourront pas être nourries. Donc qui dit vendre des vaches, dit donc moins de lait pour l'année prochaine. Donc encore un peu plus de tension sur les produits laitiers l'année prochaine à partir de 2023.
Face à cette situation, plusieurs fédérations agricoles ont alerté l'État, estimant avoir besoin de 2 à 4 milliards d'euros pour compenser les pertes de production.
On a une distribution qui est puissante et qui fait pression sur les prix. Et on a beaucoup de difficultés. Et finalement, c'est toujours le producteur qui est impacté parce que c'est le dernier maillon de la chaîne.
En attendant des aides supplémentaires, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a déjà annoncé le déclenchement du régime de calamité agricole qui va permettre d'atténuer, au moins en partie, les pertes estivales.
Et puis sachez que le décollage de la fusée Artemis a été annulé, donc ce départ vers la Lune devra attendre. Annulation en raison d'un problème technique qui porte sur un des moteurs principaux de l'engin. On va peut-être écouter les précisions que nous a apportées Michel Chevalet tout à l'heure.
C'est une série de petits incidents qui ont amené le report du lancement. Premier incident, au moment du remplissage du réservoir avec de l'hydrogène liquide, une menace d'orage, pour des raisons de sécurité, a interrompu cette opération. Deuxième petit problème technique, la détection d'une fuite d'hydrogène. Fausse alerte. Et troisième problème, une anomalie sur la mise en froid du troisième moteur. Il y en a quatre à la base de la fusée. Juste petite précision, comme ces moteurs fonctionnent à l'hydrogène et l'oxygène liquide, au moment de l'allumage des moteurs, si on injectait directement de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés, ça ferait un choc thermique. D'où l'idée, en quelque sorte, de refroidir lentement les moteurs avant l'allumage. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant d'en venir au rideau urbain, puisque Jean-Christophe Couvi est également resté avec nous via Skype, ainsi que nos invités, j'aimerais qu'on entende un extrait de ce qu'a dit Elisabeth Borne tout à l'heure devant le MEDEF. Éric de Ridmatel l'évoquait. Il s'agit évidemment de faire respecter à tous une forme de sobriété énergétique dans les mois qui s'annoncent. Et la Première ministre a parlé, elle a utilisé le terme de responsabilité collective. On en parlait tout à l'heure de cette responsabilité collective, mais là, pour un tout autre sujet, on l'écoute et puis on le commente.
L'heure est grave, mais elle n'est plus au constat. Elle est à l'action résolue. Certes, les prochains mois et les prochaines années seront difficiles, exigeants même, mais si nous agissons, nous pourrons surmonter le risque de pénurie de gaz cet hiver. Nous avons tous notre rôle à jouer. Nous entrons dans l'ère de la responsabilité collective. Nous réussirons ensemble ou nous échouerons ensemble.
Franchement, Jean Garrigue, à l'heure de l'individualisme exacerbé, est-ce qu'on peut franchement y croire à cette responsabilité collective? Est-ce que tout le monde va avoir ce réflexe d'agir pour le bien commun?
La communication politique relève à 95% de l'incantation. Donc maintenant, on avait vu que cette posture, elle avait plutôt pas mal fonctionné au moment de la crise du Covid, en tout cas de la part d'Emmanuel Macron. C'est pourquoi il a refait un petit peu le joke, j'allais dire, au moment en parlant de la fin de l'abondance, etc. Mais une responsabilité collective dans les périodes de crise, ça devrait être une évidence. Mais dans une société aussi fracturée et aussi critique que la nôtre par rapport à ses dirigeants, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, c'est évidemment très compliqué. Et vous avez des intérêts qui sont antagoniques. On a vu tout à l'heure les agriculteurs par rapport à la grande distribution, mais on pourrait multiplier comme ça les exemples. L'intérêt il est évident que les petites et moyennes entreprises auront beaucoup plus de mal à jouer le jeu de la sobriété énergétique que les grandes entreprises, que les multinationales qui sont préparées, qui ont les moyens, qui ont les ressources pour le faire. Il est évident aussi que le citoyen lambda qui a de la peine à boucler ses fins de mois, il n'a pas le même point de vue par rapport à cette responsabilité collective que les dirigeants du MEDEF. Et dernier point, il y a le rôle de l'État et le rôle d'exemplarité qui est très important. Mais le rôle d'exemplarité, ça peut fonctionner si vous avez une confiance justement collective. Et on sait bien que depuis maintenant une trentaine d'années, la confiance, le pacte de confiance entre les citoyens et l'exécutif et ceux qui nous dirigent s'est rompu. Donc tout ça est quand même très difficile à mettre en œuvre.
Et est-ce qu'il y a une forme de défiance en disant, bon, encore des contraintes, encore des incantations, mais finalement, si les autres ne jouent pas le jeu, je ne vois pas pourquoi moi, je devrais m'y soumettre. On risque d'aller vers ça aussi.
Oui, mais alors sur cette question précise, elle pourrait se comprendre parce que cette situation s'y est mise tout seul. Hein. Donc, et on peut en sortir. Je vous signale que d'autres pays européens, tels que la Pologne continue d'importer du gaz russe sans aucun problème. Nous, on s'accommode de nos principes puisqu'on ferme la porte à la Russie, mais on accueille comme un grand ami le prince saoudien, qui n'est pas quelqu'un de plus fréquentable que M. Poutine, voyez-vous. Donc, on peut tout à fait éviter la situation qu'on risque de connaître cet hiver. Donc, je peux comprendre que, en plus, l'injonction d'Elisabeth Borne, suis-moi ou crève, en quelque sorte, c'est violent. Hein,
on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais juste, je voulais juste vous faire réagir à cette intervention, puisque c'était il y a quelques minutes, de la Première ministre, William Tay. C'est vrai que la crise Covid, telle que l'évoquait tout à l'heure Jean Garrigue, c'était un scénario particulier, c'est-à-dire qu'on l'avançait quand même dans l'inconnu, il y avait une forme de peur peut-être irrationnelle qui nous emparait les uns et les autres, peut-être aussi animée par les pouvoirs publics qui nous mettaient en garde, qui tâtonnaient aussi, qui ne savaient pas trop où ils allaient, il y avait cette forme de navigation à vue. Là, on est dans un autre scénario. On se dit effectivement, on aurait pu l'anticiper. D'ailleurs, on dit souvent, on a coutume de dire, il y a la crise en Ukraine, c'est une chose, mais il y a aussi le manque d'anticipation ou le degré d'impréparation des gouvernements successifs. Et là, la responsabilité ne porte pas uniquement sur le gouvernement Macron dans ce cas-là.
On a assez dénoncé l'individualisme pour ne pas être pour un discours sur la responsabilité collective. Mais je pense que la Covid, ce n'était pas une question de responsabilité collective, c'était plutôt une solidarité collective, une solidarité nationale de chaque personne qui s'entraidait entre eux. Par contre, là où moi je suis assez critique sur le discours d'Elisabeth Borne, c'est que je suis d'accord sur la philosophie de la responsabilité collective, mais je suis contre son discours parce que je pense que c'est un discours catastrophique qui nous mènerait petit à petit vers une politique de décroissance. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand elle parle de sobriété énergétique, ça aura des effets non pas uniquement pour cette année, mais sur les 10 années à venir, voire les 20 années à venir. C'est-à-dire qu'on dirige petit à petit la France à produire moins et à consommer moins, ce qui nous conduirait, comme dans les années 80, après les deux chocs pétroliers, à un long déclin et à un long déclassement de la France, alors qu'au contraire, tous les autres pays sont en train de s'armer dans cette course à l'énergie, dans cette course à l'armement, dans cette course économique, cette course technologique. On a parlé, on n'en parlera pas du coup, mais...
Donc c'est de prendre le problème par le mauvais bout.
Moi, je pense qu'elle prend le problème par le mauvais bout. En fait, oui, il faut être solidaire dans ce cas-là, mais il faut tracer un chemin pour savoir quand est-ce qu'on va produire mieux et produire plus, notamment en matière énergétique. Et si, effectivement, le gouvernement subit la crise en Ukraine et que, du coup, qu'il y a un impact sur le gaz et sur le pétrole... On aurait pu avoir assez d'électricité, notamment en produisant plus de centrales nucléaires. Il y a 5 ans, on n'aurait jamais dû fermer Fessenheim. Et c'est Elisabeth Borne qui a annoncé la fermeture de Fessenheim. Donc le gouvernement peut parler de responsabilité collective face aux conséquences de la guerre en Ukraine, mais il ne doit pas s'exonérer de ses propres responsabilités dans le désastre de la politique énergétique qui a été menée notamment sur le choix de l'éolien et du renouvelable plutôt que sur le nucléaire.
On reviendra tout à l'heure. Moins désastreux qu'en Allemagne, par exemple.
Moins désastreux qu'en Allemagne, mais...
On reviendra tout à l'heure à l'hiver assez rude, effectivement, qui se profile et qui nous attend. Et on entendra d'ailleurs les Français et leurs craintes, parce que ça va au-delà de la simple consommation d'énergie. On sait aussi que l'inflation, eh bien, elle touche bien d'autres domaines et bien de premières nécessités. J'aimerais qu'on revienne à la problématique des rodéos urbains, parce que vous pensez bien que ça ne s'est pas arrêté avec la fin de l'été. Au contraire, bien au contraire, deux policiers ont été blessés alors qu'ils tentaient d'interpeller l'auteur d'un rodéo à Massy dans l'Essonne, sur sa motocross. Ils ont été entraînés sur quelques mètres. Alors, leurs jours ne sont pas en danger, mais ces deux agents ont quand même 10 jours d'incapacité totale de travail. Le conducteur, c'est toujours important de préciser hein, le profil de l'auteur des méfaits, il est âgé de 23 ans et on parlait de réponse pénale tout à l'heure. Il devrait d'ailleurs être présenté à la justice ce lundi en comparution immédiate. Le véhicule, lui, a été saisi. Ça, c'est la méthode Darmanin telle qu'elle elle a été avancée il y a encore quelques jours. Première réaction avec vous, évidemment, Jean-Christophe Couvi, on vous donne les moyens d'agir ou c'est simplement des effets d'annonce que nous a fait le ministre de l'Intérieur tout au long de l'été? Est-ce qu'il y a une vraie mise en place d'une politique d'action pour vos agents sur le terrain contre ces auteurs de rodéo?
En fait, on a les outils qu'on a d'habitude, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a multiplié les contrôles routiers. C'était surtout ça le plan Darmanin quelque part, c'est de dire voilà, on va faire 10 000 contrôles préventifs rodéo. Donc oui, on a un peu maquillé tout ça. On sait très bien qu'il y a des endroits où il fallait chaque commissariat fournisse 3 contrôles par jour. Il y a des endroits où il n'y a pas de rodéo, mais il fallait quand même qu'ils le fournissent. C'est là où on voit des fois l'absurdité administrative, ou pour remplir des statistiques, on oblige des gens à remplir des missions. Bon, et notre hiérarchie qui dit oui, bien sûr, amen, et au contraire, ça fait des stats pour les primes après. Donc tout ça, encore une fois, voilà. D'un côté, effectivement, il y a la communication, où on voit qu'il y a un changement quand même de paradigme, on sent qu'on tape le poing sur la table, on dit maintenant ça suffit, stop. Et on essaye, effectivement, avec les moyens du bord, de lutter contre les rodéos. Alors, ce qui change effectivement maintenant, c'est qu'on est un peu plus proactif, c'est-à-dire que oui, on fait des saisies de matériel, on les supprime. Même nos collègues qui ont réussi à lire entre les lignes se disent « bon, ben maintenant, je vais peut-être pouvoir passer un petit peu la vitesse supérieure ». Mais on voit bien qu'encore une fois, on prend des risques. Voilà, il y a encore deux, donc comme vous disiez, il y a 2 policiers au tapis, 10 jours d'ITT. Les gars en face n'hésitent plus à nous rouler dessus, à nous traîner. S'ils peuvent nous tuer, ils nous tueront de toute façon, puisqu'ils sont, on en reparlait tout à l'heure, complètement désinhibés dans la violence. Et pour eux, ils tremblent dans la violence depuis leur adolescence, donc c'est pas très grave. Et nous, donc dessus, on essaye, voilà, effectivement, chaque fois, d'utiliser et de ne pas faire, entre guillemets, une bavure. Voilà, parce que le jour où on va mettre un de ces gars au tapis et qu'il va y avoir un accident et qu'il va peut-être décéder ou avoir un accident très grave, on sait très bien que derrière, ça va être encore le policier qui va être montré du doigt. Et on va lui dire, voilà, monsieur, pourquoi vous n'avez pas fait preuve de discernement? Et vous serez tout seul à vous expliquer, effectivement, à la barre, devant le tribunal. Donc, on est toujours sur des œufs.
Ouais. Et puis, on voit aussi que ça va plus loin, parce qu'on va aussi évoquer un autre cas. Alors là, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de scénario inédit. C'est un couple avec ses 3 enfants, entre 2 ans et 9 ans, qui ont été appréhendés en rodéo urbain familial, si je puis dire. Non, mais c'est vrai, ça pourrait faire sourire, mais ça s'est passé à Saint-Leu-d'Esseran. Sur un quad, il y avait la mère de famille avec une fillette qui savait sans doute à peine marcher, sans casque, montée sur le réservoir. La sœur jumelle de la petite, également sans casque, qui, elle, était sur une moto avec son père, qui faisait des roues arrière. Et puis, un garçon de 9 ans, donc l'aîné des enfants, qui, lui, avait sa propre moto et qui... Voilà. Écoutez ce qu'on disait Mathieu Vallée, je vous fais réagir, je vois vos yeux déjà un petit peu ahuris face à ce scénario.
C'est un fait d'insécurité supplémentaire qui démontre que le problème des rodéos, c'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Et là, on voit qu'il y a des parents qui étaient avec leurs enfants à faire du rodéo sur des engins qui sont des véritables dangers publics. Donc on voit bien que les parents ont une responsabilité. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut pénaliser dans les deux sens les parents, et dans la justice et dans la prise en charge de leurs enfants. Les parents qui ont du mal à éduquer leurs enfants, il faut les aider. Ceux qui n'en ont rien à faire et qui, d'une certaine manière, en plus, se payent le luxe de donner le mauvais exemple et d'emmener dans cette barque d'infraction leurs gamins, eh ben, ils sont pas dignes d'être parents de ses enfants et d'une certaine manière de compliquer le travail des policiers.
William Tay, est-ce que c'est une mode stupide ou est-ce que c'est une provocation de plus? Et finalement, est-ce que les médias, à force d'en parler, n'alimentent pas cette envie de se mettre en scène en permanence?
C'est un phénomène culturel qui touche une partie de la population qui pense que le rodéo est cool et que ça leur permet de progresser dans leur milieu social. En fait, vous avez la société, c'est Jérôme Fourquet qui a parlé d'archipel français, ouais, au sein de certaines parties de la population. Pour progresser dans ce milieu social, il y a certains codes. Il y a certains codes, ça s'appelle la loi du grand frère pour les milieux plutôt islamiques, la loi des gangs pour ceux qui font du trafic de drogue. Et puis vous pouvez ajouter maintenant la question du rodéo. C'est-à-dire que des gens, pour progresser dans ce milieu social, pour se rendre cool, doivent faire du rodéo. Et vous êtes de plus en plus cool quand vous faites des rodéos, de plus en plus provoquants quand vous narguez les policiers. etc. Je pense que le sujet essentiel, c'est de mettre une stratégie du choc pour faire en sorte que ça leur coûte plus cher que ce que ça pourrait leur rapporter dans leur mise sociale. Et pour ça, on a à peu près trois solutions. La première, ce serait de s'inspirer des Britanniques pour faire ce qu'on appelle le percutage éventuel. Si vous avez un risque d'être percuté, est-ce que des personnes risqueront d'aller faire du rodéo? Après, il y aura des limites, ça veut dire avec des effets de risque de blessure. Mais en France, on doit inverser cette logique dans la mesure où on pense davantage à la sécurité des auteurs du rodéo qu'à la sécurité des riverains et des policiers. Il y a un deuxième élément qui permet d'avoir moins de risques, c'est de changer les règles de liberté publique pour permettre de fliquer les gens à travers des drones afin de les prendre en flagrant délit. Mais ça suppose de revoir, et Jean Garrigue l'expliquera mieux que moi, les règles du Conseil constitutionnel et les règles de l'état public actuel, RGPD, etc., pour utiliser ce moyen, et ça permettrait d'économiser des policiers qu'au lieu de les envoyer sur le terrain pour aller fliquer les rodéos, vous les envoyez ailleurs pour protéger la population, notamment sur les actes de délinquance et de criminalité. Il y a un troisième axe, et surtout, c'est ça le plus important, c'est de protéger les policiers, et c'est une réflexion qu'on doit porter sur, pour permettre aux policiers d'intervenir quoi qu'il arrive. Et donc, il faut changer le cadre des policiers pour les encourager à intervenir, parce qu'actuellement, les policiers ont peur d'intervenir dans la mesure où, si par cas, ils interviennent et qu'il y a un problème, c'est eux qui portent la responsabilité plutôt que l'auteur du rodéo.
Oui, et puis là, en l'espèce, protéger les enfants aussi, parce que là, ce sont des parents qui ont mis en danger la vie de leurs propres enfants qui avaient sans doute rien demandé. À deux ans, je doute qu'on veuille faire des rodéos urbains. Donc là, il y a quand même un gros manquement en termes de parentalité, un manquement de base. On imagine que peut-être qu'on leur retirera momentanément la garde de ces enfants pour qu'ils réfléchissent un petit peu à deux fois. Revenons sur la légalité de l'utilisation notamment des drones.
Oui, ça oblige jamais. De toute manière, on est dans une phase où il faut absolument faire évoluer la législation en matière de sécurité, en matière de sanctions pénales.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'y échappera pas. Charles Pasqua, en son temps, parlait de terroriser les terroristes. Là, quelque part, il faut commencer à terroriser les délinquants. Je veux dire que c'est ce que dit souvent mon voisin. Il y a le rapport bénéfice-risque, si vous voulez. Il faut que le bénéfice de cette gloriole éphémère se double d'un risque pénal fort et donc donner les moyens à la police d'abord de les appréhender et quand même l'expérimentation. Alors, il y a pas mal de policiers, je pense au commissaire Lebars, qui sont un peu hésitants par rapport au fameux contact tactique britannique. Ça ne correspond pas forcément au mode d'intervention français. Mais de toute manière, il faut leur donner plus de moyens et les protéger juridiquement de tout ce qui peut arriver dans ce genre d'intervention. Et puis qu'il y ait une sanction pénale rapide et forte. Je veux dire que on fera pas l'économie d'une transformation de la législation. Et j'en viens au dernier volet qui est celui des réseaux sociaux qui sont à la fois effectivement malheureusement une manière de démultiplier et de mettre en valeur ce type de comportement. Moi dans mon coin jusqu'à une date récente c'était quelques gens du voyage qui pratiquaient ce sport, sans casque évidemment, mais en général plutôt en forêt. Mais aujourd'hui, ça s'est répandu un peu partout dans les quartiers. Donc les réseaux sociaux, mais en même temps les réseaux sociaux et les médias ont quand même cette vertu de sensibiliser une population. Je veux dire que malgré tout, je pense que 95% des Français se disent qu'il y a vraiment là un péril pour la sécurité de nos enfants, un péril pour la sécurité des gens. Donc
d'accord.
Vous voyez, il y a aussi un côté positif dans la médiatisation.
Jean-Christophe Couvi, justement, je vais vous poser la même question. Peut-être que vous allez sortir un tout petit peu de votre périmètre habituel, en tout cas stricto sensu de représentant syndical. Pour vous, le fait qu'on en parle, ça dessert ou ça sert votre action ?
Alors, un peu des deux. Alors effectivement, c'est comme les feux de voiture. Vous savez, au 31 décembre, on s'est rendu compte que plus on en parlait et qu'effectivement, plus les quartiers entre eux se tapaient la bourre. Voilà, en gros, c'est j'ai fait meilleur que toi, j'ai fait plus que toi, etc. Mais en même temps, si on ne parle pas de ces sujets, ça n'arrive pas sur la table et j'allais vous dire que les gens ne savent même pas ce qui se passe. Vous voyez, je rebondis sur ce qui s'est passé à Fresnes. Si on n'avait pas eu ces images-là, personne n'aurait pu imaginer ce qui se passe dans certaines prisons, les soirées pizza, enfin, tous ces trucs-là, les quads et tout ça. Donc en fait, on ne sait pas. Donc quelque part, c'est bien aussi que l'information arrive, c'est bien qu'on ait une ouverture sur ce qui se passe dans la réalité. Après, effectivement, on voit bien qu'il y a une lutte, on l'avait vu d'ailleurs sur Lyon, où certains voulaient toujours occuper le terrain médiatique et faire parler d'eux. Donc à un moment donné, effectivement, il faut savoir s'arrêter, parler d'autres choses. Mais vous savez, moi, ce que je vois, effectivement, je suis d'accord, sur les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est-à-dire que là, on n'a plus la main. Chacun y va de sa propre expertise. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on suit plus les influenceurs que des hommes politiques, ou même des professeurs, etc. Moi, je me pose vraiment des questions sur la nature humaine. Voilà. On fait confiance, des millions de personnes suivent des influenceurs sur des réseaux sociaux qui n'y connaissent rien et qui, par contre, se montrent et s'exposent. Et à côté de ça, on a des experts, des fois, et qui parlent dans le vide. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvide, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On va vous laisser retourner à vaquer à vos occupations. Peut-être le mot de la fin. Il nous reste quelques secondes pour commenter ce que vient de dire, d'ailleurs, assez justement, j'imagine, Jean-Christophe Couvide.
On comprend parfaitement que la médiatisation et les réseaux sociaux permettent d'informer et en même temps d'alimenter cette course à l'échalote entre ces individus. C'est pour ça que l'enjeu médiatique, au sens le plus large possible, pourrait être l'un des volets d'un nouvel outil. Outillage juridique, par exemple, privé de réseaux sociaux, de comptes de réseaux sociaux, les personnes reconnues coupables de tels délits. Peut-être que la justice française pourrait s'octroyer ce droit de supprimer des réseaux sociaux tout individu qui aurait relayé ce type d'image et se serait rendu coupable.
Comment vous faites ça concrètement ? Enfin, ça veut dire être en lien aussi avec les hébergeurs.
Vous demandez une carte d'identité ?
Une carte d'identité
c'est aussi
digitale. Quoi.
C'est une chose qui serait tout à fait faisable. Oui, et dès lors que vous rajoutez et vous donnez, vous reconnaissez l'importance qu'ont ces réseaux dans la vie quotidienne des gens, l'importance qu'ils ont dans l'alimentation de ces délits, ceux-là comme d'autres d'ailleurs, et vous pouvez peut-être mettre hors jeu d'une certaine façon ces personnes-là. Ensuite, juste un mot sur la famille Rodéo. Oui. Depuis la Grèce antique, on sait que les familles peuvent aussi être des pousses au crime. Souvenez-vous des Atrides. Et puis, plus légèrement, dans la vie est un long fleuve tranquille, les groseilles, ils ne donnent pas le bon exemple non plus à leurs enfants.
Merci beaucoup, merci. On s'interrompt quelques secondes et on revient pour parler cette fois à nouveau de la crise énergétique. On verra ce que pensent les Français de l'année 2022 et même 2023. Hein, a-t-on commencé à nous prévenir qu'il risque d'être très, très compliqué pour chacun d'entre nous. À tout de suite. 90 minutes info, on va entamer la dernière partie de l'émission juste après le flash info d'Isabelle Piboulot à nouveau. Rebonjour Isabelle.
Rodéo urbain dans l'Oise et il concerne toute une famille avec des enfants en bas âge. Samedi après-midi, la mère se trouvait sur un quad avec sa fille de 2 ans et demi sans casque. La sœur jumelle de la fillette, également sans protection, était sur une moto avec son père. Enfin, une autre moto était pilotée par un garçon de 9 ans, lui aussi non équipé de casque. Le père de famille a été placé en garde à vue. Paul Pogba ciblé par des tentatives d'extorsion. Une enquête est en cours. L'affaire a éclaté samedi après la diffusion d'une vidéo du frère aîné du footballeur. Mathias Pogba évoquait de grandes révélations sur son cadet. Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et 2 hommes cagoulés, armés, réclamant 13 millions d'euros pour services rendus. Quels seront les prénoms les plus attribués aux nouveau-nés en 2023 ? L'officiel des prénoms a publié les grandes tendances à venir. Pour les filles, on retrouve Jade, Louise et Emma en tête du podium. Du côté des garçons, Gabriel, Léo et Raphaël se placent comme grands favoris.
Bon, ça bouge pas beaucoup, hein, année après année quand même. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je trouve que le classement il reste à peu près tel quel. Bon. Ils inversent peut-être la première et la deuxième place. Allez, on va parler plus sérieusement du prix du mégawattheure qui va atteindre des records. On nous l'a déjà annoncé. Les prévisions des tarifs d'électricité pour cet hiver, elles sont alarmantes. Explication de Valérie Labonne.
Vendredi dernier, la France a battu un nouveau record. Le prix de l'électricité pour 2023 a atteint sur le marché de gros plus de 1000 euros le mégawattheure. Un prix multiplié par 12 en un an. De quoi inquiéter un peu plus les Français, soucieux de voir leur facture d'électricité flamber cet hiver. D'autant que la fin du bouclier tarifaire est prévue à la fin de cette année. Dans le contexte d'inflation auquel font face les Français, l'exécutif se veut rassurant. La première ministre, Elisabeth Borne, a promis ce week-end de garder des dispositifs pour amortir le prix de l'énergie et des dispositions spécifiques seront prises pour accompagner les plus fragiles. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a promis le maintien en 2023 du chèque énergie distribué cette année aux foyers les plus modestes. Mi-septembre, le gouvernement a prévu de présenter un grand plan de sobriété pour favoriser les économies d'énergie, mais il va devoir convaincre. Les oppositions jugent son bilan environnemental très insuffisant et craignent une explosion des dépenses publiques.
Jean Garrigue, sobriété, c'est un peu le mot, le maître mot de l'automne puis de l'hiver à venir. Il y a aussi, on l'a compris dans les différentes prises de parole ces derniers jours de l'exécutif, l'idée d'un pass énergétique qui est en train de se mettre en place. Pas sûr que ça passe très bien, pardon pour les sonorités qui se répètent, mais auprès des Français, parce que c'est encore un effort à consentir pour tout un chacun.
Mais oui, on a des 7 ou ça va de, selon les constats, de 7 à 9 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté. On est dans une société où beaucoup de Français, à la suite des crises successives et en plein dans la crise actuelle, ont du mal à joindre les deux bouts. On a l'exemple de ce qui s'est passé à l'origine de la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire le problème du gasoil, de la taxe énergétique. C'est un problème à manier avec une grande prudence pour l'exécutif. Se joint à ça le problème de la frugalité ou de la sobriété énergétique pour les entreprises, qui peut être un facteur de décroissance, en tout cas d'abaissement de la compétitivité des entreprises françaises, dans un moment où on a besoin, au contraire, qu'elles soient très compétitives. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de quadrature du cercle dans tous les aspects de la société, que ce soit chez le citoyen, pour les PME, pour les grandes entreprises, qui rend la chose quand même très très compliquée. J'observe que il semblerait que le bouclier énergétique qu'on devait achever, qui devait s'achever en décembre, serait prolongé ensuite en 2023. Je ne sais pas ce qui va en être, mais le sujet, sans faire de jeu de mots, le sujet est inflammable.
Oui. Deux choses à distinguer, William T. Les efforts demandés aux entreprises et ceux que devront consentir les particuliers. Il faut vraiment faire le distinguo parce que les entreprises, dans le même temps, on veut aussi qu'elles puissent poursuivre la production. Il faut faire attention de ne pas couper, enrayer la machine complètement.
Je pense que les deux conduiraient à une catastrophe économique ou sociale. Pourquoi est-ce qu'il y aura une catastrophe économique si vous demandez aux entreprises de réduire leur consommation énergétique? On sait depuis la crise des deux chocs pétroliers qu'il y a une corrélation directe entre la production et la consommation d'énergie. Donc si vous demandez aux entreprises de moins consommer d'énergie, il y aura moins de production. Et ensuite, après, qui va payer les boucliers tarifaires, les différentes aides et les mesures de soutien de pouvoir d'achat? C'est une crise on arrivera à une crise économique.
Stagflation.
Stagflation, c'est-à-dire que le taux d'inflation sera supérieur au taux de croissance et on arrivera sur 10 ou 20 ou 30 ans de déclassement économique. Si vous demandez aux ménages de se restreindre énergétiquement, eh ben vous avez un risque qu'ils aillent dans la rue. Et donc, du coup, le gouvernement pourrait tomber. Je pense que les deux sont des mauvaises solutions et qu'il faut réfléchir à autre chose. Je pense que le sujet essentiel d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est de savoir comment on peut produire assez d'énergie pour passer l'hiver, en sachant que l'hiver prochain, normalement, on tiendra parce que nos centrales nucléaires redémarreront. Et on a deux moyens concret pour y arriver. Je pense que le premier moyen, c'est de combler notre déficit en gaz auprès de nos relations particulières et auprès des pays auxquels on a tissé un lien très fort, notamment les pays du Golfe et les pays du Maghreb, quitte à marcher sur différents principes, comme l'a rappelé Jonathan Sixou. Le deuxième point qui est essentiel, c'est de savoir si on reste et si on suspend le marché européen de l'énergie. Il faut savoir que le prix de l'électricité, est indexé parce que c'est les Allemands qui ont fixé les règles de production. Les Français ne payent pas le coût réel de production. C'est-à-dire que les Allemands ont introduit une règle, comme ce sont des grands génies en matière énergétique depuis 20 ans, ce sont des pires fous. En fait, ils ont indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et comme le prix du gaz a augmenté avec la crise en Ukraine, c'est comme ça que notre prix d'électricité a monté. Donc si par cas on veut sauver les Français, notamment du pass énergétique et de l'augmentation sans bouclier tarifaire, eh ben, il faudrait peut-être suspendre notre implication dans le marché énergétique européen.
À cet égard, la visite d'Emmanuel Macron en Algérie a-t-elle servi à quelque chose? En a-t-il
tiré
quelque chose pour notre pays?
Si vous avez attentivement écouté les propos du chef de l'État, c'était fondamental et en même temps, c'était pas très important. Parce qu'il a rappelé depuis Alger que le gaz algérien, c'était 6 ou 8% de la consommation française. Donc, en gros, c'était.
Tout compte quand même.
Donc, finalement, c'était pas une montagne que d'attendre quoi que ce soit des Algériens. De toute façon, on a obtenu, paraît-il, ce que nous souhaitions. La France est arrivée quand même à Alger après l'Allemagne et après l'Italie. Donc on n'avait plus grand-chose à pouvoir exiger, je pense, en matière de livraison de gaz pour des questions non pas de production, mais de transmission du gaz, les gazoducs n'étant pas supérieurs à un certain diamètre. Le problème, c'est qu'on a un peu à la tête de l'État aujourd'hui les pyromanes qui ont enflammé la situation, pour reprendre votre expression. Parce que le démantèlement du nucléaire français, même s'il ne l'a pas inventé, l'acteur principal de ces dernières années, c'est Emmanuel Macron, quand il était à Bercy, et ensuite quand il était à la tête de l'État il y a déjà 5 ans. Donc, si vous voulez, c'est aussi ce manque de vision à long terme. On ne fait pas tourner des usines avec des éoliennes. Donc il nous faut du gaz pour alimenter nos centrales nucléaires qui produisent notre électricité. C'est plus de 70% le nucléaire représente plus de 70% de la production de notre électricité. On pourrait, si on s'occupait mieux de notre parc nucléaire, à l'avenir, et dans un avenir qui n'est pas si lointain que ça...
Mais on ne peut pas remettre les réacteurs en route.
On ne peut pas, mais vous posez la question, Nelly, tout à l'heure, concernant les ménages.
Il y a des garde-fous.
Le problème des ménages, aujourd'hui, vous avez près de 8 millions de Français qui ne sont déjà plus en capacité de payer leurs factures d'électricité ou de gaz. Donc là aussi, ça va être un en même temps curieux. D'un côté, on nous parle de sobriété énergétique. Ouais. De l'autre, on s'achemine vers un quoi qu'il en coûte avec un bouclier tarifaire, avec c'est une politique du chèque pour les ménages les plus faibles. On navigue même plus à vue, là. Hein. J'ai du mal à comprendre le grand écart que le gouvernement...
La rentrée sociale, d'un mot, William T., selon vos observations, est-ce que vous pouvez analyser au quotidien, la rentrée sociale explosive telle qu'on nous l'a prédite, elle pourrait arriver bien plus tôt qu'on l'imaginait?
Moi, je vais surprendre. Je pense qu'il n'y aura pas de rentrée sociale explosive.
C'est vrai?
Je pense, c'est mon avis. En tout cas, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, je l'aurais fait en direct, ce sera enregistré. Je pense qu'en fait, on aura des manifestations sectorielles sur les syndicats, sur les réformes d'assurance chômage et de retraite, mais les syndicats vont mobiliser une partie et ils ont de plus en plus de mal à mobiliser. Je vais prendre une différence. C'est-à-dire que quand ils ont mobilisé pour la dernière réforme des retraites en 2019-2020, ils ont mobilisé en pic jusqu'à 600 000 personnes. Pour la réforme Sarkozy, il y avait 2 millions de personnes dans les rues. Donc ils ont divisé par 3 leur potentiel mobilisation. Et je pense qu'ils vont défendre sectoriellement. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de crise de gilets jaunes avant l'hiver? Avant l'hiver, c'est parce qu'en fait, les gilets jaunes ont une représentation politique avec la France Insoumise et le Rassemblement National. Et donc du coup, ils ont une voie d'expression parlementaire et légale.
Merci à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi. C'est tout le temps qui nous restait. Jean Garrigue, vous revenez dans quelques jours, j'en suis sûre. Dans un instant, vous retrouverez Laurence Ferrari, Punchline. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition de 90 minutes. Info, excellente soirée sur... Enfin, l'après-midi déjà, on ne va pas aller trop vite. Sur l'antenne de CNews, à bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.